pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 8e dimanche. Jésus leur dit ensuite un exemple.
Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Un disciple n'est pas au-dessus de son maître. Celui qui est formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. En effet, il n'y a pas de bon arbre qui fasse de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui fasse de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne récolte pas des figues sur des ronces, et on ne vendange pas du raisin sur un buisson. L'être humain qui est bon, du bon trésor du cœur tire le bien, et le mauvais de son mauvais fond tire le mal. C'est en effet du trop-plein du cœur que parle sa bouche. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà un texte qui peut nous dérouter par une accumulation d'images disparates au premier coup d'œil. Il n'est pas toujours évident de savoir qui Jésus décrit sous les traits de l'aveugle et de l'arbre.
Eh bien, la place de ces versets dans le récit de Luc peut peut-être nous éclairer. Nous sommes dans la dernière partie de l'enseignement qui suit les Béatitudes. Luc a rassemblé des paroles dites par Jésus qui décrivent le vrai disciple. Un long développement a parlé de l'attitude du disciple envers ceux qui le rejettent, voire le persécutent. « Si vous voulez être les fils et les filles du Père, dit Jésus, ayez un amour gratuit envers vos ennemis. Ne jugez pas, et Dieu ne vous jugera pas. Pardonnez, et Dieu vous pardonnera. C'est de la mesure dont vous mesurez que Dieu mesurera pour vous. » Cette dernière image peut faire penser à l'entonnoir, le côté évasé représente le don de Dieu, un don qui est total et sans mesure, alors que l'autre bout, plus resserré, représente notre capacité à accueillir et à recevoir ce don de Dieu. Et il représente, par le fait même, la mesure dont nous nous servons dans notre amour du prochain. Le disciple est l'instrument de la miséricorde de Dieu. Eh bien, les images de l'arbre et de l'aveugle vont décrire comment le disciple de Jésus doit vivre pour être un bon instrument. Les paroles de Jésus, regroupées ici par Luc, se trouvent dans le récit de Matthieu, dispersées çà et là. Alors, il est possible que le regroupement opéré par Luc gauchisse quelque peu le sens originel de ces paroles, mais l'important pour nous, c'est de les comprendre dans le cadre où Luc les a rassemblées. Le procédé de regroupement est traditionnel dans la prédication des rabbis, des rabbins du temps. On ne consacre que quelques phrases à chaque sujet, et cela afin de mieux soutenir l'attention des auditeurs. Un sujet en attire, en amène un autre, relié parfois par un même mot ou une même image. Ainsi, l'image de l'aveugle a pu amener celle de la poutre dans l'œil, l'image de l'arbre et de ses fruits a pu attirer l'image du trésor du cœur et des actes. Cette façon de prêcher se dit « enfiler des perles ». Les images, eh bien, ce seront parfois des hyperboles comme celle de la poutre dans l'œil. Mais nous avons encore aujourd'hui de semblables exagérations pour mieux frapper l'imagination. Ainsi, nous parlons d'avaler des couleuvres et de voir 36 chandelles.
est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle?
Eh bien, de qui Jésus parle-t-il? Dans le récit de Matthieu, il parle des pharisiens qui sont décrits comme des guides aveugles.
Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou.
Mais ici, en Luc, il ne s'agit plus des pharisiens, mais des disciples de Jésus. Au sein de la communauté chrétienne, il y a aussi des responsabilités à assumer. Luc y fera référence en comparant les guides de son église à l'intendant d'une grande maison.
Quel est donc l'intendant fidèle, avisé que le maître établira sur sa domesticité, pour distribuer en temps voulu les rations de blé?
Mais Jésus pouvait prévoir facilement que tous les guides ne seraient pas toujours exemplaires. Le premier d'entre eux, Simon-Pierre, en effet, reniera son maître, et les autres apôtres se disputeront pour savoir quel sera le plus grand parmi eux.
Ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. Il leur dit, « Les rois des nations agissent avec elles en seigneur, et ceux qui dominent sur elles se font appeler bienfaiteurs. Que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. »
Alors Jésus décrit ici le rôle des guides comme étant un rôle de service. Et si les guides oublient cet esprit de service, eh bien alors ils se conduisent en aveugles et ils feront chuter ceux qu'ils doivent aider à être eux aussi des serviteurs. Les images qui vont suivre vont expliciter cela.
Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. »
La poutre représente sans doute ici ce sentiment de supériorité, de domination dont Jésus parlait tout à l'heure aux apôtres lors du repas des adieux. Le fabuliste français Jean de La Fontaine exprimait la même idée par cette formule « Lynx envers nos pareils et taupe envers nous ». On a en effet des yeux de lynx perçants pour discerner la moindre faille chez autrui, mais on a des yeux de taupe, des yeux aveugles sur nos propres défauts. Et souvent ce sera le ressentiment, la jalousie, voire la haine, qui nous rendront aussi sensibles aux faiblesses des autres. Et pour mieux nous justifier, nous grossirons ces faiblesses et nous serons incapables de voir les qualités qui rendent pourtant belles ces mêmes personnes. Olivier Clément écrit que se justifier soi-même en condamnant les autres, eh bien c'est notre pente permanente dans la vie privée comme dans la vie publique. Rien, en effet, n'est plus important pour celui qui est engagé dans la vie spirituelle que le refus de se faire valoir en méprisant les autres. Antoine de Saint-Exupéry disait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible aux yeux. Oui, c'est le cœur miséricordieux, sensible à la misère de l'autre, qui aura ce septième sens, ce sens spirituel qui nous permet de voir les autres comme Jésus les voit. L'apôtre Paul écrira aux chrétiens de Philippe un semblable conseil. « Ne faites rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. » Cette capacité de s'émerveiller des beautés de nos frères et sœurs est en effet la condition de l'amour. Simone Veil disait qu'éduquer quelqu'un, c'était l'élever à ses propres yeux. Eh bien, pour faire cela avec vérité, il faut aussi l'élever à nos propres yeux. Les conseils de Jésus, ne jugez pas, ne condamnez pas, permettent donc de penser que ce qui nous rend aveugles, c'est d'abord et surtout notre manque de miséricorde. Car alors, la mesure dont nous nous servons pour nos frères et sœurs sera terriblement étroite et sévère, et nous ne pourrons pas voir en eux la promesse de beauté éternelle qui demeure inscrite dans le plus profond de chaque cœur, aussi grand son péché soit-il.
Un disciple n'est pas au-dessus de son maître. Celui qui est formé sera comme son maître.
Matthieu aussi rapporte cette phrase de Jésus. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Mais en Matthieu, il s'agit du maître qu'est Jésus, un maître qui sera livré à la mort, et donc le disciple doit s'attendre à être lui aussi persécuté. Mais ici en Luc, le maître doit sans doute être compris comme étant le disciple de Jésus lui-même, un disciple devenu le guide et le formateur de ses frères et sœurs. Eh bien, le guide qui ne vit pas la miséricorde de Dieu ne pourra pas être un guide éclairé pour les autres, puisqu'il ne connaît pas le vrai visage de Dieu, ce visage qui s'est révélé à Moïse, « Je suis Dieu de tendresse et de miséricorde ». Puisqu'il ne vit pas lui-même de miséricorde, il ne peut donc pas faire connaître le Dieu de miséricorde à ceux qu'il guide et qu'il forme. Le disciple qu'on forme, en effet, ne pourra pas connaître différemment du disciple qui le guide. Si le guide ne vit pas lui-même la miséricorde sans mesure, celui qu'il guide et forme en restera à un amour limité, restreint, qui juge et condamne les autres. Aucun maître ne pourra conduire celui qu'il forme au-delà du palier spirituel qu'il a lui-même atteint. Mais qui sont ces disciples devenus maîtres? Ces conseils valent-ils pour le disciple ordinaire de la communauté ou bien est-ce qu'ils sont destinés au seul responsable? L'introduction de notre passage nous renseigne peut-être. En effet, notre récit adresse les béatitudes et l'enseignement qui les suit à toute la foule des disciples. « Je vous dis à vous qui m'écoutez, dit Jésus. » Le récit de Matthieu, parallèle, est également éclairant. Tout l'enseignement qui suit les béatitudes est en effet introduit par cette affirmation de Jésus « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ce sont tous les disciples qui doivent être sel de la terre et lumière du monde. L'expression « sel de la terre » exprime qu'il faut que chacun soit un être de communion au sein de la terre promise, cette terre qui est le lieu de la communauté. Le sel est en effet le symbole de l'alliance qui rassemble et unit. Eh bien, cette communauté de l'alliance, c'est-à-dire la communauté de la communion entre Dieu et son peuple, ne pourra être lumière pour le monde qu'à condition d'être une communauté unie. Être sel au sein de la communauté des disciples, c'est être un être de miséricorde pour ses frères et sœurs. C'est seulement lorsque la communauté vit et témoigne de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu, qu'elle peut devenir lumière pour ceux de l'extérieur. L'Église, l'Assemblée chrétienne, n'est pas lumière d'abord par ses dogmes, mais elle l'est par son comportement interne de compassion, de miséricorde. L'attitude de la communauté envers tous ses membres est en priorité envers ceux qui se trouvent marginalisés parce qu'ils ont un comportement quelque peu différent, eh bien cette attitude doit être une attitude de compréhension, de non-jugement, de non-condamnation. Davantage même, elle doit être une attitude d'amour qui est sans mesure, parce que cet amour doit guérir nos fautes, des fautes qui sont toujours renaissantes. Pour aider quelqu'un, on dit qu'une tape sur l'épaule vaut mieux qu'un coup de pied au derrière. Redisons que si certains disciples ont la fonction d'être responsables de la communauté, si certains seront davantage que d'autres des pères, des mères, des frères, pour leurs frères et sœurs, eh bien ce sont pourtant tous les disciples qui sont responsables de se guider mutuellement. L'apôtre Paul parlera du devoir de s'édifier les uns les autres, au sens premier d'édifier qui veut dire construire.
Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre.
Et Paul appliquera d'une façon toute particulière cette fonction d'édification mutuelle à la question du parler en langue.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je souhaite que vous parliez tous en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'en donne l'interprétation pour que l'assemblée soit édifiée. Chacun de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement ou une révélation, parler en langue ou bien interpréter. Mais que tout se fasse pour l'édification commune.
Prophétiser, c'est donc apporter un enseignement ou une révélation. Pour Paul, l'absolu se trouve dans ce devoir de se construire les uns les autres, de s'entraider, à grandir dans la connaissance amoureuse de Dieu et dans l'amour fraternel. C'est à cette capacité de nous édifier mutuellement que tout doit être jaugé. L'épître de Jude exhortera d'ailleurs les fidèles dans le même sens.
Mais vous, mes amis, édifiez-vous sur la base de votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Les disciples d'aujourd'hui que nous sommes ont-ils conscience de ce devoir fraternel qui fonde le devoir de faire vraiment communauté? Nos assemblées devraient être pour cela un taille de fraternité pour que nous puissions nous connaître les uns les autres et pouvoir ainsi nous apporter cette aide mutuelle qui nous fera devenir de vrais fils et filles du Père. Jacques Loeuf disait qu'une communauté sera morte ou vivante selon que chacun des membres portera un nom pour tous ses frères et ses sœurs. Comment en effet prétendre s'édifier mutuellement si nous sommes des anonymes les uns pour les autres ?
Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère.
Jésus va en effet plus loin. Épier sans cesse la vie des disciples pour en exagérer toutes les faiblesses, c'est pour lui comme si l'on avait un esprit hypocrite ou un esprit perverti. C'est qu'on ne se préoccupe pas d'abord de se corriger soi-même, alors que nous sommes tous, sans exception, des êtres faibles et pécheurs. Par stricte honnêteté, on doit s'appliquer à soi-même l'enseignement qu'on veut communiquer. Il est également important de ne pas utiliser le message de l'Évangile pour dominer, pour posséder le frère ou la sœur que l'on forme ou que l'on guide. L'entraide chrétienne doit se faire pour libérer et non pas pour enchaîner. Toutes ces déviations sont hélas des réalités qui existeront toujours plus ou moins dans la vie de l'Église. Eh bien, elles seront peut-être évitées si on envisage la morale chrétienne comme étant surtout une rencontre personnelle avec Jésus, avant d'être un code de valeurs ou un ensemble de préceptes à suivre. La morale chrétienne est une rencontre avec la personne même du Maître. Le guide n'est pas seulement un enseignant, un maître de sagesse, il doit être celui qui conduit à Jésus, pour laisser alors celui, celle qui l'accompagne, en présence de l'unique Maître, seul à seul. Maurice Zendel a souvent rappelé qu'en Jésus, il n'y a plus de morale, mais une mystique.
Le christianisme n'est pas une formule abstraite. Les saints ne sont pas des originaux qui se sont battus les flancs pour aimer un principe abstrait, impersonnel, pour lequel il est impossible de se passionner. Au contraire, les saints sont ceux qui ont toujours perçu en Dieu une personne, une présence, une vie débordante, brûlante, consumante, qui les pénétrait jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, et qui, soulevés chaque jour par cet enthousiasme nouveau, étaient capables de le communiquer à autrui.
Que chaque disciple se retrouve ainsi, pauvre et humble, devant le Maître unique de tous, Jésus.
Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Chaque arbre se connaît à son propre fruit.
La suite de notre texte va nous aider à savoir discerner quel disciple peut être un vrai guide? C'est à ses fruits qu'on reconnaît un arbre, le raisin pousse sur la vigne, les figues sur le figuier. Davantage encore, des fruits bons au goût se trouvent normalement sur un arbre greffé, alors que des fruits de piètre qualité, souvent amers, révèlent un arbre sauvage. Eh bien de même, c'est à ses actes que l'on reconnaît si la personne est bonne ou mauvaise en son cœur. L'être humain agit bien ou mal selon que son cœur est bon ou mauvais. Cette comparaison entre l'arbre et le cœur se trouve d'ailleurs déjà en d'autres textes du judaïsme, ainsi dans le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 27.
Le champ porteur de l'arbre, son fruit le fait connaître. Ainsi, la parole fait connaître le sentiment du cœur de l'humain.
Matthieu fait écho à cela. D'après le fruit, l'arbre est connu, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le testament d'Acher, un écrit juif, décrit aussi ce lien entre le cœur et les gestes de chacun.
Si l'inclination de l'humain est au mal, tout son agir est dans le mal. Même s'il fait le bien, cela tourne au mal. Car lorsqu'il commence à faire le bien, la finalité de son action le pousse au mal, puisque le trésor de son inclination est plein d'esprit mauvais.
Acher parle du trésor de son inclination où Jésus parle du trésor de son cœur. Le cœur, en effet, doit être compris ici dans le sens qu'il a dans la Bible. Il est le siège de l'intelligence et de la volonté, là où se prennent les décisions de nos actes. L'être humain agit donc bien ou mal selon que son cœur sera agi par l'esprit de bonté ou non. Le vrai disciple de Jésus est celui dont le cœur est converti à la bonté. C'est cela qui doit nous permettre de reconnaître un vrai disciple. Les gestes qui le révéleront seront ceux de la miséricorde. Là encore, la vie concrète de Jésus est le véritable enseignement, donnant quelques exemples de sa conduite qui révèle ce qu'est son cœur.
Voyant leur foi, il dit au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. »
À la femme adultère qu'on lui amène pour la lapider selon les préceptes de la Torah, Jésus va dire,
« Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. »
Voilà ce qu'est, selon Jésus, le salut de notre vie. Vivre de bonté, de miséricorde. Mais comment cela sera-t-il possible aux êtres si fragiles que nous sommes? Eh bien, la finale du chapitre sur l'enseignement qui suit les béatitudes nous donne une réponse. Tout cela est possible à l'être humain à condition qu'il s'appuie sur Jésus.
Celui qui vient à moi, écoute mes paroles et qui fait celles-ci, à qui le comparer? À un être avisé qui bâtit sur le roc. Quand la crue est venue, le torrent s'est rué contre cette maison sans pouvoir l'ébranler.
Pour être un disciple de Jésus, il ne suffit pas d'entendre ses leçons. Il faut les faire, les mettre en pratique. Le verbe écouter doit aussi être pris au sens fort de garder en soi la parole entendue afin de pouvoir la réaliser. Il s'agit d'obéir à la parole, au sens premier de ce verbe obéir, ob, audire en latin, qui signifie être à l'écoute de quelqu'un. Écouter, obéir à la parole de Dieu, ce sera, comme le dit la parabole, bâtir, édifier sa vie sur le roc. On sait que ce mot, roc, qualifie souvent Dieu lui-même dans la Bible. Donnons quelques exemples tirés des psaumes.
Le Seigneur Dieu est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher, où je me réfugie, mon bouclier, ma citadelle. Qui donc est Dieu sinon le Seigneur Dieu? Qui donc est le roc hormis notre Dieu? C'est toi mon roc et ma forteresse. Pour l'honneur de ton nom, tu me conduiras et me guideras. Sois le rocher où je m'abrite, où j'ai accès à tout instant. Tu as décidé de me sauver. Oui, tu es mon roc, ma forteresse.
Roc est le surnom que Jésus donne à Simon pour en faire comme le prototype de tout disciple. Ce surnom se dit en araméen Képha et en grec Petra, deux mots qui signifient un roc, un rocher. Malheureusement, la francisation du mot grec pétra en pierre ne rend pas tout à fait l'image originale. En effet, Dieu n'est pas une pierre, mais il est un rocher. C'est sur le roc de la parole de Dieu que doit se bâtir la vie du disciple. Jésus lui-même est roc, car sa parole est la parole même du Père. C'est ce qu'il nous dit dans le récit de Jean.
Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
On ne connaît vraiment Jésus qu'en gardant sa parole, et lui alors nous conduit vers le Père. Pour être disciple de Jésus, pour pouvoir conduire vers lui nos frères et sœurs, il n'y a donc pas d'autre fondement que l'Évangile écouté, médité et mis en pratique. Madeleine Delbrel, une des grandes mystiques du XXe siècle, elle-même pétrie de l'Évangile, nous livre ce même message.
On ne peut rencontrer Jésus pour le connaître, l'aimer, l'imiter, sans un recours concret, constant, obstiné à l'Évangile, sans que ce recours fasse intimement partie de notre vie. Pour l'entendre, Jésus réclame des oreilles d'enfants qui n'ajoutent rien, ne retranchent rien à ce qu'ils entendent, puis qu'ils le font comme ils l'ont entendu. L'Évangile n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. La lumière de l'Évangile est un feu qui exige de pénétrer en nous pour y opérer une transformation. Nous assimilons les paroles des livres. Les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Quand nous tenons l'Évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, s'emparer de nous pour que son cœur greffé sur le nôtre, son esprit branché sur le nôtre, nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouvez également sur Internet. Notre adresse est www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. Vous pouvez également vous abonner soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.